aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 8 mai 2024. Au Tchad, le parti du Premier ministre Succès Masra dénonce des violences et menaces graves contre lui et ses partisans. En RDC, des jeunes luttent contre la pollution du lac Kivu.
Suite à la quantité énorme de déchets qu'il y a ici, les poissons ne peuvent plus se reproduire ici.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Kenya, les Nations Unies s'inquiètent après que des dizaines de cas de choléra ont été signalés après des pluies intenses et des inondations destructives. En Afrique du Sud, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise 48 heures après l'effondrement d'un immeuble. Les États-Unis, une livraison d'armes à Israël alors que de violents combats se poursuivent à Rafah. Une trêve est au cœur des discussions au Caire en Égypte. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le parti du Premier ministre tchadien, Succès Masra, candidat à la présidentielle de lundi, dénonce des violences et menaces graves contre son chef et ses partisans ainsi que des fraudes. Il appelle le peuple à défendre sa volonté exprimée dans les urnes. Les détails avec Nani Talani.
Le Premier ministre fait l'objet de surveillance et de menaces à sa sécurité extrêmement graves, assure son parti Les Transformateurs sur sa page Facebook. Il ajoute que la résidence privée de Succès Masra fait l'objet d'une surveillance par drone et qu'une vidéo publiée en ligne par un ministre montre des images dévoyées visant à le diffamer. Selon le parti, ses militants font l'objet de menaces et violences graves, ont subi des arrestations arbitraires depuis la présidentielle ou sont activement recherchés. Il dénonce aussi le refus d'accès de ses observateurs à des bureaux de vote lors du dépouillement du scrutin, des violations inimaginables, y compris des tirs à balles réelles, afin de s'accaparer des bulletins et des procès-verbaux. Pour les transformateurs, il s'agit des comportements inacceptables qui font peser des risques sur le processus électoral en cours. Le parti de M. Masra avertit qu'il n'entend pas continuer à subir de manière impassible ces actions qu'il impute à certaines autorités administratives et quelques forces de défense et de sécurité qui agissent avec les moyens de l'État. Il appelle le peuple à rester vigilant et mobilisé pour défendre sa volonté exprimée dans les urnes lors de la présidentielle, dont les résultats officiels doivent être annoncés le 21 mai. Le parti de M. Masra avertit qu'il n'entend pas continuer à subir de manière impassible ces actions qu'il impute à certaines autorités administratives et quelques forces de défense et de sécurité qui agissent avec les moyens de l'État. Il appelle le peuple à rester vigilant et mobilisé pour défendre sa volonté exprimée dans les urnes lors de la présidentielle, dont les résultats officiels doivent être annoncés le 21 mai.
Les principaux partis d'opposition au Togo ont appelé ce mercredi à une résistance farouche et déterminée contre la nouvelle constitution adoptée à la mi-avril dans le pays lors d'une conférence de presse organisée aujourd'hui au siège du parti des Togolais à Lomé, la capitale. Le 6 mai, le président Faure Gnassingbé a promulgué la nouvelle constitution adoptée par les députés en deuxième lecture le 19 avril, qu'il assure de rester au pouvoir après la victoire écrasante de son parti, l'Union pour la République, lors des élections législatives et régionales du 29 avril. Le président béninois Patrice Talon a demandé aujourd'hui aux dirigeants militaires du Niger de collaborer et de rouvrir leur côté de la frontière s'ils veulent que le Bénin autorise les navires à charger les exportations de brut nigérien dans son port de Sémé. M. Talon a déclaré que les chefs militaires de son voisin du Nord traitaient le Bénin comme un ennemi et ne coopéraient pas pour rétablir les liens et normaliser officiellement le commerce plutôt que d'autoriser des passages informels à la frontière. L'ONU exprime son inquiétude après des dizaines de cas de choléra ont été signalés au Kenya. Selon l'OMS, 44 cas ont été recensés dans le comté de Tana River, région de l'est du Kenya, parmi les plus durement touchés lors des récentes inondations. Yakuba Ouedraogo.
Je pense qu'entre le gouvernement et les partenaires nationaux et internationaux, nous serons en mesure de contenir la maladie, a déclaré le coordinateur résident des Nations Unies au Kenya, Stephen Jackson. L'OMS continuera à soutenir la réponse à l'urgence sanitaire et restera vigilante face aux flambées de maladies qui peuvent facilement se propager si elles ne sont pas rapidement contenues, a affirmé de son côté Abdourahmane Diallo, représentant de l'OMS au Kenya. Les inondations y ont fait 257 morts et déplacé près de 55 000 ménages, selon un bilan officiel. La rentrée scolaire, prévue le 29 avril, est reportée à deux reprises en raison des inondations, aura finalement lieu lundi, selon l'annonce faite par le président William Ruto. Fin 2023, des pluies diluviennes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie ont causé la mort de plus de 300 personnes. Plus de 400 personnes ont péri à travers l'Afrique de l'Est durant la saison des pluies, intensifiée cette année par un épisode du phénomène climatique El Niño qui a débuté mi-2023.
Le gouvernement kenyan et le syndicat des médecins hospitaliers ont signé un accord de reprise du travail mettant fin à une grève de 8 semaines, portant notamment sur des revalorisations salariales, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Santé. Cette grève avait quasiment paralysé l'activité des 57 hôpitaux publics du pays depuis son lancement le 14 mars par l'unité syndicale des médecins du Kenya. En Afrique du Sud, l'espoir s'amenuise de retrouver encore 39 ouvriers pris au piège dans les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré lundi. Mais les secouristes redoublent d'efforts, conscients que cette fenêtre est cruciale. Mouamadou Mfa.
Sur les 75 personnes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de son effondrement inexpliqué lundi à Georges, sur la côte sud du pays, 36 ont pu être dégagées des décombres, dont 7 sont mortes selon la municipalité. Dans la nuit de mardi à mercredi, 2 autres personnes ont pu être extraites des gravats et hospitalisées. La première a été dégagée d'un trou creusé dans les gravats et placée sur un brancard. Une autre a été récupérée et enveloppée dans une couverture sous le regard de dizaines de voisins et proches derrière le périmètre de sécurité. Plus de 200 secouristes sondent et découpent des tonnes de béton sans discontinuer depuis près de 48 heures dans l'espoir de retrouver d'autres survivants. Les autorités ont rappelé ce mercredi que c'est généralement dans les 3 premiers jours que les opérations de sauvetage permettent de retrouver des survivants, ce qui laisse encore plus de 24 heures d'espoir.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara a annoncé aujourd'hui qu'elle va se présenter à la présidentielle du 15 juillet, lors de laquelle le chef de l'État sortant, Paul Kagame, briguera un 4e mandat. Et puis Human Rights Watch a accusé aujourd'hui un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda et une milice communautaire d'avoir tué au moins 45 civils lors de 2 événements distincts en janvier dans le centre du Mali. Ces attaques sont susceptibles d'être considérées comme des crimes de guerre, a dit Human Rights Watch.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a mené des frappes aériennes et des opérations ciblées aujourd'hui dans la ville de Rafah, à Gaza, alors que des négociations ont repris au Caire pour une trêve entre les mouvements islamistes, Hamas et l'État hébreu. Les États-Unis ont suspendu la livraison d'une cargaison de bombes à Israël. Nathalie Barge.
Malgré les pressions pour une trêve, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envisage une offensive terrestre contre Rafah, dernier bastion du Hamas selon Israël. Les États-Unis ont suspendu la livraison d'une cargaison de bombes à Israël après l'absence de réponse de l'État hébreu face à ses inquiétudes concernant cette offensive. Après le départ de dizaines de milliers de Palestiniens sommés lundi de quitter l'est de la ville, l'armée a pris le contrôle du passage de Rafah pour le transfert de l'aide avant de le fermer. Sous la pression de Washington, Israël a annoncé la réouverture du passage de Kerem Shalom, le passage d'Erez depuis Israël, où l'aide est transférée vers le nord du territoire palestinien, continue de fonctionner, selon l'armée israélienne. Au Caire, les médiateurs égyptiens, américains et qataris tentent toujours de décrocher un accord entre le Hamas et Israël, dont les positions restent très éloignées. Le mouvement palestinien a accepté une proposition de trêve incluant un retrait israélien et un échange d'otages et de prisonniers palestiniens. Israël a répondu que la proposition est loin de ses exigences et répété son opposition à un cessez-le-feu permanent tant que le Hamas ne sera pas vaincu.
L'Ukraine a annoncé aujourd'hui des restrictions d'électricité en fin de journée après une nouvelle attaque massive de drones et missiles russes contre son réseau énergétique qui a fait au moins un mort et une dizaine de blessés. Depuis le début de l'année, les installations électriques ukrainiennes ont subi plusieurs vagues de bombardements russes ayant causé de graves dégâts et des coupure d'électricité. Et puis au Brésil, 100 personnes ont trouvé la mort et 128 sont portées disparues après les inondations sans précédent provoquées par des pluies torrentielles dans le sud du pays, selon le dernier bilan publié aujourd'hui par la Défense civile. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
L'Égypte devrait augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié pendant l'été pour répondre à la forte demande qui avait conduit à des pannes d'électricité l'été dernier. Une situation qui avait choqué les Égyptiens. Le gouvernement du Caire veut acheter jusqu'à 20 cargaisons de gaz naturel liquéfié pour se préparer à l'augmentation de la demande d'électricité, indique Reuters. Le Nigeria lance un appel d'offres aux investisseurs internationaux disposant de capacités financières et techniques pour 12 blocs pétroliers terrestres et en eau profonde, a déclaré ce mercredi son régulateur pétrolier, portant à 19 le nombre des blocs pétroliers proposés aux investisseurs en 2024. Nigeria veut approfondir l'exploitation des réserves estimées à 37,5 milliards de barils de pétrole brut et à 209,26 milliards de pieds cubes de gaz naturel du pays. Pour terminer, Amazon a lancé mardi son service d'achat en ligne en Afrique du Sud avec plus de 3000 points de retrait et une sélection de marques locales et internationales, incluant l'électronique, les appareils électroménagers et de petites cuisines. Les acheteurs bénéficieront d'une livraison gratuite sur les premières commandes. Les commandes ultérieures supérieures à 27 dollars seront aussi livrées gratuitement.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Balle au panier avec le Basketball Africa League. Les Rivers Hoopers enchaînent dans la conférence du Sahara.
Oui, les Nigériens ont dominé hier les Tunisiens de l'US Monastir 84 à 63 à la Dakar Arena. Les Rivers Hoopers confortent ainsi leur place de leader de cette conférence du Sahara avec 3 victoires en 3 matchs. Dans l'autre rencontre, le club hôte, l'AS Douane du Sénégal, s'est incliné 66 à 61 devant l'armée patriotique rwandaise. Pas de match aujourd'hui, c'est jour de repos. Pour rappel, ces 4 équipes sont en lice pour 2 tickets qualificatifs directs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
Ici en playoff NBA, Boston et Oklahoma City commencent bien leur demi-finale.
Les Celtics, meilleure équipe de la saison régulière, ont assumé ce statut avec un large succès à domicile contre les Cleveland Cavaliers, 120 à 95. Boston a maîtrisé la partie avec 32 points de Jaylen Brown et 25 de Derek White. Les Celtics reçoivent de nouveau Cleveland demain jeudi pour le match numéro 2. Le Thunder d'Oklahoma City numéro 1 de la conférence Ouest a aussi bien débuté sa série face aux Dallas Mavericks, 117-95, et reste invaincu dans ses playoffs après avoir balayé au premier tour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 4-0. Dallas se rend dans l'Oklahoma ce jeudi pour le match 2.
Football, le Borussia Dortmund est le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Le club allemand s'est imposé sur la plus petite des marques 1-0 au Parc des Princes. L'unique but a été inscrit par le défenseur allemand Marc Hummels sur un corner. Le Borussia l'avait emporté 1-0 également à l'aller à domicile. En finale à Wembley, Dortmund va affronter soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich. Sacré champion d'Espagne ce week-end, le Real a l'histoire de son côté pour cette demi-finale retour ce soir. Dans son stade Santiago Bernabéu, où il est invaincu depuis plus d'un an, lui qui compte 14 couronnes continentales, cette statistique résume l'ampleur du défi pour le club bavarois qui garde toutefois ses chances après son nul 2 buts partout à Munich à l'aller.
Possible forfait d'Ahmed Afnaoui aux prochains Jeux Olympiques.
Le nageur tunisien, champion olympique en titre du 400 mètres nage libre, a annoncé que sa participation aux Jeux 2024 de Paris cet été est incertaine en raison d'une blessure. Le président du Comité national olympique tunisien, Merez Boussaïane, a renchéri que rien n'était encore sûr concernant la participation du jeune nageur de 21 ans. Champion olympique sur 400 mètres nage libre en 2021 à Tokyo et double champion du monde sur 800 mètres et 1500 mètres en 2023 à Fukuoka, au Japon, Ahmed Ayoub Afnaoui caressait le rêve de devenir à Paris le Tunisien le plus médaillé de l'histoire des Jeux. Ce record est détenu par le coureur de fond Mohamed Gamoudi, qui était monté 4 fois sur le podium entre 1964 et 1972.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le littoral sénégalais suscite beaucoup de convoitises, mais son occupation nourrit des frustrations chez les populations sur fond de litiges fonciers. Une situation qui a conduit le président Bassirou Diomaye Faye à suspendre les constructions sur ce cordon. Une décision certes saluée par beaucoup, mais qui ne fait pas l'unanimité. La correspondance de Wani Johnson Sambou.
Il y a une vingtaine d'années, cette plage s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une soixantaine. Le reste a été accaparé par des hôtels aux grandes dames des habitants des localités alentours, comme Pape.
On ne peut plus accéder à la plage sans pour autant passer par la rue. Donc il n'y a plus de côte. Ils ont tout pris. Mais nous, quand on était jeunes, on nageait en venant. Mais en rentrant, on partait à pied. Ça, on venait ici pêcher et on venait ici prendre des fruits de mer. Mais on ne peut plus faire ces activités.
Comme pour lui, la mer est devenue un privilège pour certains Sénégalais. Leur espace de loisirs s'est rétréci au fil du temps. Et ce qui en reste n'est pas sûr de résister à la boulimie foncière autour du littoral. Mais ces gens entrevoient une lueur d'espoir avec la décision du président Bassirou Diomaye Faye de suspendre les travaux le temps d'y voir plus clair.
Ils sachent que nous, en tant que Sénégalais, nos enfants ont besoin de la brise marine, nos enfants ont besoin de la plage, nos enfants ont besoin de s'entraîner. Donc c'est par rapport à ça que nous lançons un cri d'alerte. Nous aussi, nous avons droit à la mer.
L'inquiétude des défenseurs du littoral reste malgré tout très grande. Président d'une organisation dénommée SOS Littoral, Aliou Ndiagne se réjouit de la décision du président Diomaye Faye, mais il préfère être prudent.
Moi, je trouve que c'est un état des lieux, parce que Watt l'avait fait, après Macky Sall aussi l'avait fait, hein, mais par expérience, nous nous étions rendus compte que après ces états des lieux des deux régimes sortants, la prédation avait monté de plus belle.
Mais s'agit-il vraiment de prédation? Pas forcément, estime ce juriste spécialisé. Mais pour Mamadou Diangar, la décision de suspendre les constructions autour du littoral a quelque chose de risqué pour l'État du Sénégal.
Il faudrait que l'autorité administrative, au préalable, fasse les enquêtes nécessaires. Si elle arrive à constater qu'il y a maintenant des occupations irrégulières, à partir de ce moment-là, de saisir le juge d'une action en revendication de sa propriété et à la suite de la décision de justice, prendre des mesures idoines, des mesures adéquates. Mais dans le cas contraire, aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des biens qui ont été déclassés, immatriculés au nom de l'État, attribués par voie de bail ou par voie de titre foncier. Si jamais il y a destruction d'immeubles, on pourrait attaquer l'État pour voie de fait. Et en cas de voie de fait, l'État ne bénéficie plus de sa protection devant le juge administratif et de l'application du droit administratif, mais plutôt devant les juridictions de droit privé, de droit commun, et sa responsabilité pourrait être engagée.
Le foncier reste un sujet très sensible au Sénégal, encore plus celui du littoral, souvent source de litiges. D'autres zones à Dakar et dans d'autres régions sont aussi concernées par la mesure prise par le nouveau président sénégalais. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le lac Kivu, l'un des joyaux environnementaux de la région, est pollué par des déchets de toutes sortes. En réponse à cette pollution, des jeunes de l'organisation Casque Vert collectent des bouteilles en plastique et les transforment en îles artificielles flottantes. Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région, est allé à leur rencontre et nous propose ce reportage.
Dans la commune de Kadutu, dans la ville de Bukavu, des déchets plastiques ménagers sont visibles dans les rues et dans les caniveaux de plusieurs quartiers, mettant les habitants mal à l'aise. À la rivière Kawa, qui se jette dans les lacs Kivu, un coup d'œil suffit pour constater les dangers environnementaux qui pèsent sur les lacs en raison de la prolifération des déchets de toutes sortes. L'écologiste Yvelin Tampaka craint des conséquences très graves pour la biodiversité.
Cet endroit, c'est l'endroit où les poissons devraient en principe se reproduire, comme vous l'avez remarqué, mais suite à la quantité énorme de déchets qu'il y a ici, les poissons ne peuvent plus se reproduire ici.
Les écologistes soulignent que la production halieutique a fortement diminué ces dernières années due à la pollution du lac Kivu, une situation qui interpelle des citoyens comme Joseph Rubenga, membre du mouvement écologiste Les Casques Verts. Il utilise son temps libre pour collecter les déchets plastiques sur et autour du lac.
On essaie de collectionner principalement des déchets plastiques et principalement de bouteilles plastiques qui sont partout sur le lac, comme vous pouvez le voir. Et on veut les transformer, leur donner une nouvelle vie.
L'un des fruits spectaculaires de la collecte et du recyclage des déchets plastiques est cette petite île flottante située dans l'un des hôtels les plus fréquentés de Bukavu. Cette petite île, faite de bouteilles, accueille souvent des visiteurs amoureux de la nature qui préfèrent prendre leur repas ou leur boisson sur le majestueux lac Kivu. Il y a quelques jours, Josaphat et ses amis ont lancé une vaste campagne de collecte impliquant toute la communauté. Objectif, récolter des millions de bouteilles pour construire un espace appelé Tilatopia qui sera lui aussi fabriqué à partir des déchets plastiques.
Donc ces déchets que vous voyez vont servir à la construction d'une île artificielle flottante à base de ces bouteilles et d'autres déchets, notamment des barques qui ont été abandonnées sur le lac, pour finalement créer une île de grandeur nature qui va avoir une superficie d'à peu près, on va parler de 37 sur 34 mètres.
Quelques 2 500 000 bouteilles en plastique devront être collectées pour mener à bien le projet. En regardant la maquette, l'île aura la forme d'un poisson à moitié dévoré, une manière de dénoncer les conséquences de la pollution du lac sur les espèces aquatiques. De retour de Bukavu, Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Les institutions académiques en Israël disent qu'elles se préparent à accueillir les étudiants qui veulent quitter les universités américaines, alors que les protestations sur les campus contre la guerre d'Israël à Gaza amènent de nombreux étudiants juifs américains à dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Linda Grashtein est notre correspondante à Jérusalem. Son reportage est repris ici par Ginny Niwa.
Les manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes dans les universités américaines mettent mal à l'aise certains étudiants juifs sur leur campus. Maya Resnik est étudiante dans un programme de double diplôme entre l'université de Tel Aviv et l'université Columbia à New York, où elle devrait commencer ses études plus tard cette année. Mais les manifestations anti-israéliennes l'ont amenée à reconsidérer son projet.
I find it upsetting and disturbing and a little bit frightening for when I go.
Je trouve cela dérangeant et troublant et un peu effrayant pour mon voyage. Rien que de savoir qu'en tant que membre de ce programme, je fais l'objet d'une surveillance accrue. Et il y a beaucoup de mes pairs qui demandent à ce que mon programme soit supprimé. J'ai donc l'impression de ne pas être la bienvenue.
Certains étudiants juifs de Columbia qui s'identifient comme pro-israéliens et manifestent en soutien aux otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza rapportent qu'ils ont été harcelés.
Jewish people were assaulted. I myself was also harassed.
Des personnes juives ont été agressées. Moi-même, j'ai été harcelée. Une personne m'a crié déçue, m'a traité de sioniste et de meurtrier. Nous avons l'impression que le campus a été envahi par une idéologie assez extrême. Et je pense que c'est très triste parce que beaucoup d'entre nous se soucient vraiment de l'idée de la libération palestinienne et d'une Palestine libre.
Certains universitaires israéliens disent que les campements pro-palestiniens autour des États-Unis ne reconnaissent pas la complexité du conflit israélo-palestinien.
Ce que nous devons faire en tant qu'État d'Israël et en tant qu'université israélienne, c'est offrir un lieu où une discussion nuancée sur Israël et le conflit israélo-palestinien peut avoir lieu.
L'université de Haïfa et d'autres universités israéliennes offrent aux étudiants et aux professeurs juifs américains la possibilité d'être transférés dans des institutions universitaires israéliennes, que ce soit de manière temporaire ou permanente.
This is the voice of America, Washington, D.C.
Le président chinois Xi Jinping a achevé mardi sa visite de 2 jours en France, son premier voyage en Europe depuis 5 ans. Ses 2 prochaines étapes, la Serbie et la Hongrie, comme le rapporte Henri Riguel, la Chine et l'Europe cherchent à resserrer leurs liens, mais se heurtent à des obstacles majeurs, notamment les différents commerciaux et le soutien de Pékin à la Russie. Davantage avec Gaby Dorsil.
Le président français Emmanuel Macron a invité mardi son homologue chinois dans les montagnes des Pyrénées, la région d'origine de la grand-mère du dirigeant français. Il s'agissait de la première visite de Xi Jinping en Europe depuis 5 ans et depuis les relations se sont détériorées. L'Europe accuse Pékin de subventionner les industries qui sont en concurrence avec ses propres entreprises dans des domaines tels que les véhicules électriques. Pour Emmanuel Macron, ce que souhaitent les Européens, c'est un partenariat équitable.
Une volonté de respect et de compréhension mutuelle, réciproque, et une volonté de continuer à ouvrir le commerce, mais à s'assurer à chaque fois que celui-ci est pleinement loyal, qu'il s'agisse des tarifs, des aides, des accès au marché.
Xi n'a pas fait de concessions immédiates, selon l'analyste Steve Chang.
Xi Jinping ne pense pas que la Chine ait un problème de surcapacité et il estime que la position européenne sur les véhicules électriques chinois, par exemple, n'est pas raisonnable. Mais bien sûr, il essaie aussi de s'engager avec les Français et de faire en sorte qu'un grand constructeur automobile chinois s'installe en France.
Les pays occidentaux accusent la Chine d'avoir aidé la Russie à envahir l'Ukraine en augmentant les échanges commerciaux avec Moscou et en lui vendant des produits à usage double pouvant être utilisés pour fabriquer des armes. Le président Xi a rejeté ces accusations.
La Chine n'est ni à l'origine de la crise, ni une partie, ni un participant à la guerre. Cependant, nous ne nous sommes pas contentés de regarder le feu brûler de l'autre côté de la rivière. Mais nous avons joué un rôle actif dans la recherche de la paix.
C'est manifestement faux et les dirigeants européens doivent adopter une position plus ferme, estime l'analyste Igor Merheim-Ehr.
Si ce n'était pas le cas, 4 entreprises chinoises ne figureraient pas déjà sur la liste des sanctions de l'Union européenne et les contournements sont bien plus vastes que cela. Les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté d'environ 45% d'une année sur l'autre.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté Pékin à user de toute son influence sur la Russie.
Nous sommes d'accord sur le fait que l'Europe et la Chine ont un intérêt commun dans la paix et la sécurité.
Xi Jinping est arrivé mardi soir en Serbie, un partenaire clé des Balkans dans le cadre du programme d'investissement La Ceinture et la Route de Pékin. Plus tard dans la semaine, il se rendra en Hongrie, son allié européen le plus proche, et une épine de longue date dans le pied de l'unité de l'UE sur la politique de la Russie et de la Chine.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur